Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là malgré le froid. Merci à l'association Racines et Chemins de m'inviter pour la seconde fois ici à Belfort. Je suis venue il y a quelques années pour venir parler de la question de l'héritage au sens spirituel du terme. Qu'est-ce que c'est que hériter au sens quand on hérite d'une maison? On hérite de murs, mais qu'est-ce que c'est que le cœur de l'héritage? Et là, je suis invitée à venir vous parler de Jésus dans le cycle de ces conférences sur Jésus de Nazareth. Et là, je vais vous parler, je vais essayer en tout cas de vous dire comment Issa, Sidna Issa, sallallahu alayhi wa sallam, donc mon Seigneur, ou Seigneur Jésus, Issa, c'est le nom de Jésus qui est ici. Donc c'est Issa, donc je dirais Issa ou Jésus selon Issa, c'est le nom musulman de Jésus, d'accord. Et de vous parler de ce Jésus musulman, de ce Jésus vu du côté de l'islam, puisque comme vous le savez, l'islam n'est pas né comme ça, certes il est né dans le désert, mais il est né dans une lignée, dans une filiation avec le christianisme et avec le judaïsme. Donc il s'inscrit dans un héritage, je reviens toujours à cette notion d'héritage. Voilà, donc je vais vous parler de ce Jésus-là. Et quand je choisis le titre de Jésus, Issa au miroir de Jésus, c'est que dans un miroir, c'est un reflet. Quand vous voyez, regardez, c'est jamais exactement la même chose. Un reflet, il y a toujours quelque chose qui est un angle un peu différent, une petite métamorphose. Donc, parce que si le Coran avait repris Jésus exactement de la façon des évangiles, ça n'aurait pas eu tellement d'intérêt. Et puis, le fait d'avoir quatre évangiles, moi, ça m'a toujours émerveillé. Il y a au moins quatre façons de raconter l'histoire de Jésus. Il y en a quatre, mais il y en a tant et tant et tant d'autres. Hein. D'où ces évangiles apocryphes, où chacun racontait la façon dont il vivait Jésus. Donc au miroir, donc vous allez voir que ce Jésus-là, c'est le même et c'est pas tout à fait le même. Au sens spirituel, au cœur de Jésus, au sens de la spiritualité profonde, c'est le même, pour moi, personnellement, pour moi. Après, on va voir ce qui va peut-être se différencier. Plus, je ne vais pas vous en parler en théologienne, je ne suis pas théologienne, je suis écrivaine, j'aime les mots, j'aime les textes, j'aime lire, j'aime interpréter, j'aime être traversée par ces grands textes qui nous sont offerts, que sont la Torah, les Évangiles et le Coran, j'aime m'en imprégner, je suis romancière, je suis essayiste aussi, donc je ne suis pas théologienne. Donc je ne m'autorise que de moi-même, comme on dit, c'est-à-dire que je ne représente ici personne sinon moi-même, voilà, en toute humilité, et moi, comment en tant que musulmane, je ressens Jésus, comment je le vis, comment je l'aime, comment je le salue dans mes prières, comment je lui rends hommage, comment aussi il me permet d'agrandir mon islam. C'est-à-dire que je vais vous parler en tant que musulmane, mais j'ai envie de vous dire, je vais vous parler en tant que monothéiste. J'aime beaucoup dire que je suis d'abord monothéiste. C'est-à-dire la religion d'Abraham, le premier qui a inauguré le règne d'un Dieu unique, d'un Dieu universel, et qui ensuite s'est traduit par le livre de la Torah, par les évangiles et par le Coran. Et Parce que si on ne s'inscrit pas dans cette fidélité monothéiste que l'islam veut, vous savez que l'islam cherche beaucoup à s'inscrire dans cette lignée abrahamique, alors on ne comprend pas comment on parle de Jésus dans le Coran. Vous voyez, je ne peux pas directement parler de Jésus. Je peux en parler, mais il faut que je l'introduise d'abord par le monothéisme, c'est-à-dire la façon dont l'islam s'inscrit dans la religion monothéiste, ce qui explique la façon dont on va voir Jésus. Et puis c'est aussi une question très sensible. Hein. Aujourd'hui, il y a une concurrence des religions qui est insupportable pour celui qui pense que Dieu est pour tous et Dieu est unique et Dieu nous a donné la chance d'être au monde et d'accomplir son dessein divin. Il y a à côté des concurrences de religions. Quelle est la meilleure? Quelle est la plus zélée? Quelle est la plus ceci? Quelle est la plus cela? Donc moi je vous dis tout de suite, cela ne m'intéresse pas. Hein, je ne suis pas là pour dire. Je suis là pour dire comment Jésus en islam est vécu. Mais l'islam est né au 7e siècle, mais au 7e siècle, le christianisme lui-même n'était pas encore complètement stabilisé. Il y avait beaucoup d'évangiles apocryphes qui circulaient, beaucoup de prophètes, il n'y avait pas encore tous les conciles qui avaient établi les dogmes concernant Jésus, concernant Marie, concernant... Donc il y avait encore un fourmillement, un bouleversement qui avait été apporté par le règne de Jésus, qui lui n'a prédit que, au fond, 2 ans et demi, 3 ans, hein, pendant son règne de Jésus. Et ça a bouleversé pourtant la face de la terre, la face du monde. Et quand le Coran a été révélé au prophète Mohammed, il ne s'est pas révélé en une fois. Le Coran n'est pas tombé en une fois. Il est tombé sur 23 ans, sur une durée de 23 ans. C'est que régulièrement, Mohammed, le prophète, avait des révélations dans sa grotte, hein, puisqu'il était dans une grotte à la Mecque, et là où il faisait des retraites, et l'ange Gabriel venait le visiter. Et il y avait, donc il commençait à prédire dès qu'il a eu les 2 ou 3 premières révélations. Et on lui renvoyait toujours les autres religions, bien sûr le polythéisme qui était dominant en Arabie, hein, donc les idoles, et puis ce christianisme-là, ce christianisme oriental qui était en train encore de chercher sa voie. Il n'était pas encore totalement stabilisé comme il l'est aujourd'hui. Ça veut dire que la vision du Coran, de Jésus, eh bien, elle est très perplexe. Hein, c'est pas, elle est mystérieuse. Voilà. Jésus garde tout son mystère. Autant le prophète Mohammed est un homme, hein, c'est un homme, c'est un charnel, c'est un homme qui est comme vous et moi, qui vit, qui meurt, qui se nourrit. D'ailleurs, c'est une parole fréquente dans le Coran où les gens viennent dire à Mohammed, mais toi tu manges et tu vas sur les marchés, tu es un homme comme nous, tu n'es pas un homme divin, tu n'es pas un homme né d'un miracle comme Jésus. Et donc Jésus est dans le Coran, vous allez voir, il reste énigmatique. Donc si quelqu'un vous répond sur Jésus, c'est ça et c'est pas ça, alors, comme dit le Coran, abstenez-vous. Il y a une parole que j'adore dans le Coran et qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, c'est qu'il dit qu'il n'y ait pas de parole vaine. Quand vous ne savez pas quelque chose, quand quelque chose est de l'ordre du raïb, le raïb c'est de l'ordre du mystère absolu, de l'ordre du Dieu indéfinissable, indescriptible, le Dieu transcendant, le Dieu qu'on ne peut pas délimiter, alors abstenez-vous, c'est mieux pour vous. Vous ne savez pas, lui seul sait. Et donc souvent, il y a des admonestations comme ça dans le Coran. Quand on parle de Jésus, dans la crucifixion, vous verrez, eh bien, ils ont cru ceci, ils ont cru cela, ils se sont perdus en conjectures, ils se sont perdus en discours vains. Voilà, ils ont parlé, mais comme moi je parle maintenant, et le mieux c'est que peut-être je m'abstienne, mais ce n'est pas le contrat que j'ai signé avec Racines et Chemins. J'ai envie de vous essayer de vous faire partager que la chose divine, c'est une chose subtile. C'est une chose subtile. Et quand j'entends des discours qui vous disent c'est ça et c'est pas ça, voilà, j'ai mon maître intérieur, Abdelkader, sur lequel je viens de faire ce livre, l'Arabe des Lumières. Vous connaissez l'émir Abdelkader ? Bon, vous connaissez. Voilà, l'émir Abdelkader, il dit c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Voilà. Et pour moi, ça a été une leçon. C'est-à-dire, tu as raison, mais il y a ça aussi. Donc, je ne mets pas en question ce que tu dis, c'est ta croyance. Bon, tout ça, c'est de l'introduction pour essayer de vous mettre dans ce climat. Et j'ai quelques images qui sont jolies. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je voudrais faire un petit défilé d'images sur les représentations de Sidna Issa, donc Monseigneur Jésus, en Islam. Alors ça c'est Issa, ici c'est écrit Issa. Dans le Coran, Jésus est toujours défini comme Issa ibn Maryam. Il est toujours le fils de Marie. Voilà, pour bien rappeler sa densité charnelle. Après je vous parlais d'Annonciation, qui est absolument magnifique et que je vous invite à lire dans le Coran. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc ça c'est le sceau Issa. Ensuite, on passe. Alors elles sont dans le désordre, c'est pas grave. Ça c'est un détail de Marie. On va y revenir. Ça c'est un détail, donc c'est des miniatures persanes, turques, moghols, donc de l'Inde, syriennes aussi, de Damas. Ça c'est Jésus. C'est là, Issa. Avec ses disciples, et c'est la table servie. Donc c'est une sourate dans le Coran qui s'appelle la table servie, qui est un miracle dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc essayez de vous en souvenir, où les disciples disent à Jésus, on aimerait bien quand même que tu nous fasses un petit miracle, on aimerait bien quand même que tu nous fasses descendre une table servie. Mais donne-nous à manger, c'est aussi l'évangile, c'est aussi la parole divine. Donc il faut, voilà. Donc ça c'est une représentation de la table servie. Vous voyez Christine de là-bas ? Oui, c'est pas... Ensuite, alors ça c'est Jésus qui prie, sans doute avec ses disciples, ou qui dit la prière, vous savez comme l'imam qui se met toujours devant les oranges. Donc vous voyez cette flamme hein, qui représente toujours... C'est la mandorle pour les saints ou pour... là, c'est toujours représenté avec une flamme, sauf le prophète Mohammed, qui est toujours représenté avec un voile sur le visage. Voilà, parce qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le représenter. Vous connaissez tous l'histoire de Charlie Hebdo, etc., etc. Alors qu'il y a des représentations où on voit le prophète aussi sous sa forme humaine, si on peut dire. Donc voilà, le prophète est représenté toujours avec ce voile. Vous savez, c'est comme Moïse quand il veut voir la montagne, quand il veut voir le Seigneur sur la montagne et qui se met un voile après sur le visage parce qu'il a vu Dieu. Voilà, il a vu Dieu et donc il doit se voiler après. Alors là, c'est, vous connaissez l'ange Gabriel. Ici, à droite, c'est le prophète Mohammed qui est sur son cheval ailé, qu'on appelle Al-Bourak. Le cheval ailé, c'est le voyage du prophète Mohammed de Médine à Jérusalem et de Jérusalem jusqu'au 7e ciel. Donc il a fait un voyage miraculeux qu'on appelle le mirage, qui n'a rien à voir avec le mirage. Le mirage, et où il va rencontrer dans les différents cieux tous les prophètes. Il va rencontrer Abraham, Moïse, Jésus, et là, c'est la rencontre entre le prophète Mohammed et Jésus lors du voyage miraculeux au 7e ciel. Voilà, c'est une très très belle miniature, et tous les autres anges, tous les chérubins qui sont là. Ensuite, là aussi, c'est Jésus qui prie avec ses moines, je pense. Alors, il n'y avait pas de commentaires, je suis désolée, j'ai fait ça un peu au dernier moment, pardonnez-moi. Là, on dirait des moines, à droite, à gauche, sauf si vous avez des idées, je suis preneuse, hein. Et à droite, ce sont des musulmans qui prient. Et c'est Jésus qui est au milieu. Elle est très belle. J'aime beaucoup ce dialogue entre musulmans et moines. Voilà. Alors ça, c'est la grande légende, c'est l'antéchrist, hein, c'est le retour de Jésus sur terre, puisque donc, selon l'islam, le prophète Mohammed est le dernier des prophètes, c'est le sceau des prophètes, hein, le sceau, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prophétie après, et donc c'est le dernier des prophètes, mais le dernier des saints, c'est Jésus, qui va revenir au moment de la grande résurrection, qui va revenir par le minaret de la mosquée des Omeyyades à Damas. Donc là, on n'est pas dans le Coran, on est dans l'ordre de la légende, que j'avais dit aussi, que je ferai des incursions du côté des légendes populaires et des légendes. Et donc il est accueilli, Jésus est accueilli dans le minaret de Damas, la mosquée de Damas, au moment de la résurrection finale. Et toute la résurrection. Voilà, donc c'est Jésus et le prophète Mohammed, qui est l'un sur un chameau, l'autre sur un âne. Et qui sont vraiment comme frères. Mohammed dit, il n'y a pas de prophète proche que moi, que celui qui est Jésus. Jésus est proche de moi. Entre lui et moi, il n'y a pas eu d'autres révélations. C'est l'Annonciation, qui est très très belle. Tu peux l'agrandir peut-être? Donc c'est Marie qui est dans son temple totalement consacrée. Vous allez voir, vous voyez, elle est consacrée, elle est complètement dans sa qibla. La qibla, c'est le lieu le plus sacré de la mosquée, parce que c'est le lieu où il n'y a rien, il n'y a aucune décoration, parce que c'est la présence du Dieu, et Dieu ne se représente pas. Et c'est l'ange Gabriel qui vient féconder, qui vient concevoir, qui vient insuffler, pour reprendre les mots du Coran, insuffler le souffle divin dans le corps vierge de Marie. Voilà. Et elle a gardé sa virginité parce qu'elle avait pressenti que quelque chose allait advenir, que quelque chose allait... elle est aussi très très belle. Alors là, c'est Marie qui allait Jésus. Et Jésus, vous avez vu la flamme de Jésus qui est là sur la tête de nourrisson. Oula, non, ça c'est du Germain et mon mari. Bon, ben, il y en a encore une autre. Détruisant les idoles. Si celle-là, voilà, Mariam secourt le panier. Non, juste en dessous, voilà. Et après, celle au-dessus, c'est fini. Voilà, elle est aussi très belle. Donc ça, c'est un des miracles de Jésus. Jésus est ici, vous voyez le petit nourrisson, déjà avec sa flamme. Marie vient d'accoucher. Elle vient d'accoucher. Hein. Et elle a très très peur de ce que vont dire les gens, parce qu'elle a mis au monde un enfant alors qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'est pas... Jésus parle. Dans son berceau, il parle. Donc c'est un des miracles de Jésus que l'on trouve dans le Coran, que l'on ne trouve pas dans les évangiles. Peut-être un apocryphe, peut-être c'est inspiré de l'apocryphe, mais pas tous. Hein. Et donc il lui dit, ne t'inquiète pas, si on vient te voir et si on te dit quelque chose, tu dis j'ai voué à mon Seigneur un jour de jeûne, je ne parlerai pas. Parce que le jeûne de la nourriture et le jeûne de la parole, c'est presque pareil. Voilà, trop parler, c'est pas bon. Et je parle trop là. Et donc, il lui dit ça. Son berceau, il lui dit, tu dis que tu jeûnes et tu ne dis rien. Et c'est moi qui parlerai. Et c'est lui qui va parler. Je vous raconterai tout à l'heure comment il va parler. Et voilà. Et puis, elle a faim ou je ne sais pas quoi. Il lui dit, tu secoues les dattes du palmier, tu secoues les stipes du palmier et il va tomber les dattes et tu vas pouvoir les manger. Voilà. Et enfin, on aurait dû commencer comme ça, mais c'est moi, c'est le prophète Mohammed, la Kaaba, vous connaissez la Kaaba en noir, et qu'est-ce qu'il fait? Ce sont les idoles, les idoles polythéistes, donc il détruit les idoles. Et c'est parfait pour ma transition, parce que la première chose de ma conférence était, quand le prophète Mohammed arrive à la Mecque, il revient à la Mecque, puisqu'il est parti, il a été chassé, il était vraiment en danger, qu'il a été à Médine. Quand il est revenu, il a pris possession de la Mecque et il a détruit toutes les idoles, puisque c'est un temple polythéiste, comme toutes les églises qui sont faites sur des temples païens, hein, en Bretagne, en Normandie, un peu partout. Et il a dit, détruisez toutes les idoles, sauf ces deux-là, ces deux peintures, sauf ces deux-là. C'était ces deux-là, Jésus et Marie. Voilà. Donc, les bien-aimés du prophète Mohammed. Voilà, mes amis, on peut rester là-dessus. Merci beaucoup. Voilà, je vous ai donné ce petit panorama pour vous donner un peu de chair, un peu de beauté aussi. Donc les noms de Jésus, hein, c'est Issa, il est cité au moins 25 fois dans le Coran, mais le prophète le plus cité, c'est Moïse, qui est très, très, très présent dans le Coran. Marie est citée 34 fois, et c'est toujours Issa ibn Maryam, hein, le fils de Marie, comme je vous l'ai dit. Il est aussi Al-Masih, vous comprenez ? Al-Masih, le Messie, hein, il est aussi appelé le Messie, qui a reçu l'onction, et il est aussi Ar-Rasoul, le prophète. La qualité de prophète n'est d'ailleurs pas propre au Coran, puisque Jean lui-même et d'autres dans les évangiles parlent du prophète de Nazareth, hein, mais avant qu'il ne connaisse sa nature propre. Hein, donc il disait le prophète Jésus. Alors, vous avez eu une conférence déjà sur le rappel des dogmes, hein, donc les deux dogmes qui sont vraiment... fondamentaux, disons, c'est la nature divine du Christ et la crucifixion. Donc je vais y revenir, mais de manière différente. Donc Dieu n'a, pour ça que je rappelais le monothéisme d'Abraham, Dieu est transcendant, Dieu n'a pas de fils, il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré. Alors, c'est quasiment la profession de foi du musulman. C'est la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. Il y en a une autre, la surat al-Ikhlas, la surat 112, qui est très, très puissante aussi, qui est très forte, et qui dit Dieu n'a pas de, il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré. Mais il a la capacité de faire engendrer une femme d'un enfant qui a une nature particulière, singulière, mystérieuse. Voilà. Nulle part vous trouverez dans le Coran qu'il a une nature, que c'est un homme comme Mohammed. C'est clair qu'il ne l'est pas. C'est clair. Qu'il est né d'un miracle. Hein. Et Jésus n'a pas été crucifié. Voilà les deux dogmes. Les sources sur lesquelles je m'appuie, c'est le Coran, bien sûr. Les hadiths, c'est les dires du prophète. Mais là, ils sont quand même extrêmement nombreux et ils sont en train d'être analysés. Moi, j'aime bien... rester sur le texte lui-même, et ce qu'on appelle l'évangile de Issa, c'est en fait un je ne l'ai pas ramené ici, mais c'est des dires de Jésus qui ont été regroupés. Voilà, comme les hadiths du prophète, ils ont été regroupés, voilà, mais dans un sens d'une concurrence interreligieuse. Voilà, c'est pas très... Donc cette scène inaugurale, je vous en ai parlé, et je ne peux pas vous parler de Jésus sans parler de Marie. Marie dans le Coran est Al-Batoul. Al-Batoul, c'est la Vierge toute pure. Elle est servie par une grâce surnaturelle. Marie est la seule femme nommée dans le Coran et elle a une sourate à elle toute seule, la sourate Mariam. Hein? La sainteté de Marie, ce qui est étrange, c'est qu'il y a un développement de l'Annonciation et de Marie dans le Coran beaucoup plus important que dans les évangiles. Marie, déjà, on va sa mère, donc la sourate Imran, la sourate 3, sa mère a du mal à avoir un enfant, donc elle fait des prières, etc. Et elle dit à Dieu, je te consacrerai mon enfant. Et elle est enceinte, le père est Zacharie, elle est enceinte et elle accouche de qui ? Une fille. Et donc ça c'est dans le Coran, elle dit, mais c'est une fille, comment est-ce que je vais pouvoir consacrer une fille à Dieu ? Et le Coran dit, Dieu répond, si on peut dire, mais Dieu sait mieux qu'elle, ce dont elle avait accouché, et que le garçon n'est pas comme une fille. Voilà. Donc elle est déçue d'avoir une fille, mais Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est qu'une fille. Et ce sera du plus bel accueil que son Seigneur l'accueillit. Sa mère la mettra sous protection divine, donc elle va consacrer sa fille à Dieu, et son Seigneur la fera croître d'une forme belle et harmonieuse. Marie grandit, et elle va se consacrer elle-même. Elle a été consacrée par sa mère, mais c'est elle-même qui va aller se rendre dans le temple, comme vous avez vu. Hein. Elle va s'isoler des siens, elle va mettre un hijab entre elle et les siens. Un hijab, ça veut dire un rideau, hein, ça veut dire un voile. Hein. Et elle va s'éloigner des siens, parce qu'elle a peut-être l'intuition que quelque chose va se passer en elle, dans son corps. Donc elle a besoin de se réserver. Elle se retire de sa famille, elle fait vœu de silence et de virginité. Et puis on voit autour d'elle, on vient la voir, son père vient la voir, et elle voit des nourritures autour d'elle. Des nourritures qui sont des bonnes. Qu'est-ce qui t'est amené ? Elle dit, c'est Dieu donne à qui il veut. Donc elle a des nourritures aussi miraculeuses. Je vous conseille vraiment de lire la scène, la sourate Mariam, donc la sourate 19 et la sourate 3, où est racontée la scène de l'Annonciation, qui est vraiment très belle. Donc elle se consacre à son Seigneur, mais voilà qu'elle prie toute la journée, elle ne parle à personne, et voilà que passe devant elle un homme d'une stupéfiante beauté, un jeune homme d'une merveilleuse beauté, qui est vraiment comme un miracle, quoi. Voilà. En fait, c'est l'ange Gabriel qui s'est présenté à elle, mais il ne s'est pas présenté à elle en tant qu'ange. Il s'est présenté à elle en tant que jeune homme. Vous voyez, c'est-à-dire que la présence du désir, en fait, on ne s'est jamais posé la question, est-ce que Marie a désiré, elle aussi, être conçue. Et moi, je l'interprète, c'est mon interprétation personnelle, c'est aussi que Marie, elle a aussi été subjuguée, séduite par la beauté, et c'est ça aussi, dit Ibn Arabi, qui est un très grand mystique de l'islam du 9e siècle, Ibn Arabi, vous avez peut-être entendu parler, et qui dit que quand elle a vu ce jeune homme, sa poitrine s'est dilatée, ses entrailles se sont dilatées, et ainsi l'ange, sous la forme de jeune homme, a pu insuffler le souffle de Dieu en elle. Ça va, c'est clair ? Bon, c'est très loin de la conception de Gabriel, enfin c'est très loin. Un ange aussi, mais là, l'islam est une religion plus charnelle, c'est clair, plus humaine, pas plus humaine au sens humaniste, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Par exemple, il n'y a pas de péché originel. Hein. La Vierge Marie n'est coupable de Ève n'est coupable de rien. Hein. C'est Adam et Ève qui tous les deux ont mangé un fruit. C'est même Adam qui a commencé et c'est Ève qui a continué. Donc il n'y a pas cette affaire de c'est important à se dire. Bon. Il y a la question dans le Coran ou dans la vie du prophète, dans la poésie musulmane, il y a la présence du plaisir, la présence du désir, la présence de la chair, qui sont des choses qui sont accueillies comme un don divin. Il n'y a pas de monachisme en islam, comme vous le savez, puisque c'est contraire même au dessein divin qu'a voulu Dieu, puisqu'il y a un homme, une femme, voilà, pour l'engendre, etc. Donc tout ça, pour essayer d'avoir ce contexte de la scène de l'Annonciation, où moi je l'interprète comme Marie ayant désiré, donc ayant accueilli encore plus ce don divin, ce souffle divin. Et on fait moi je l'ai fait très tôt, mais d'autres l'ont fait aussi, c'est qu'il y a une comparaison entre le prophète Mohammed et Marie. Je m'explique. Mohammed, la première fois que Gabriel vient le voir, il est terrorisé, un peu comme Marie quand elle voit l'ange. Il est absolument terrorisé, il croit qu'il est fou, enfin il veut se jeter, et il lui dit Iqra. Donc il lui présente un feuillet où il y a les lettres de les premiers versets du Coran. Et il dit, je suis Ummi, je suis vierge de lettres. Lettres, entendez-le comme vous voulez, je ne sais pas lire. Alors, c'est le même mot en arabe pour dire je suis illettré. Et je suis comme ma mère m'a mis au monde. C'est-à-dire, je n'ai pas encore de science. Je n'ai pas encore et donc, Mohammed est dans cette même position. Je trouve qu'ils sont, Marie et Mohammed sont dans cette même position. Virginité d'un savoir sexuel pour Marie, hein, puisqu'elle est vierge, elle est vierge. Comment elle dit à l'ange, au jeune homme, elle lui dit, comment aurais-je pu avoir un garçon? Quand il lui dit « Je suis venu t'amener un garçon pur », il dit « Comment aurais-je un garçon pur sans qu'aucun humain ne me touche, ne m'ait jamais touché ?» Donc elle est vierge. Et Mohammed dit aussi « Je ne sais pas lire, je ne peux pas lire ». Donc il y a les deux matières de la matière divine, de l'expire divin, du souffle divin, qui sont d'un côté l'encre, la lettre, Jésus, on dira tout à l'heure qu'il s'est Kalam Allah, c'est la parole divine, c'est le verbe de Dieu. Et c'est la semence de l'autre côté, hein, pour Marie. Donc une semence subtile, parce que c'est la semence divine, si on peut dire. Voilà. Marie est vierge de corps, comme le prophète est vierge de lecture. Le verbe de Dieu n'a encore rien inscrit dans leur corps. Voilà. Aussi sur cette beauté, parce que ça doit un peu vous étonner, mais un des attributs de Dieu, c'est la beauté. Dieu est beau. Allahu Jamil wa Yuhibbul Jamal. Dieu est beau et il aime la beauté. C'est pour ça qu'on est en Orient, il y a beaucoup de choses qui sont relatives à. On aime l'artifice, on aime les décorations, on n'est pas du tout dans l'austérité. Ça fait partie d'un des attributs de Dieu. Et quand elle craint Marie, elle fait une prière, elle a peur de l'effraction de son corps, hein, de son corps et de sa virginité et de sa consécration, puisqu'elle est consacrée. Et elle prie le Rahman. Rahman, c'est le tout miséricordieux. Hein, c'est comme en hébreu, Rahma, c'est quoi? C'est les entrailles. Donc Dieu est le Rahman, que l'on répète plusieurs fois dans notre prière, on le dit au moins 50 fois par jour. Rahman, c'est Dieu nous aime comme une mère aime ses enfants avec ses propres entrailles. Hein. Là encore, on retrouve la présence du corps. Alors, j'ai un avis, ça va vous faire peut-être rire, hein, mais moi aussi c'est drôle, c'est que Ibn Arabi dit ce refuge dans Rahman va mettre Marie dans un état de présence parfaite avec Allah. Il y a la beauté, il y a la consécration, il y a la virginité, elle est toute prête à recevoir le souffle divin. Si Jibril avait insufflé l'Esprit, donc l'Esprit Saint, en cet instant de frayeur, hein, puisqu'elle, Issa aurait alors été manifesté au monde sans que personne ne pût le supporter, car il aurait porté sur le visage l'effroi ressenti par Marie, et il n'aurait pas été beau. Il aurait pris ses traits de sa mère qui était effrayée, alors que là, Jésus est toujours beauté en Israël. Quand on parle de lui, c'est toujours amour et beauté. Donc Issa en islam n'est que beauté et amour. Il est fruit d'un désir transfiguré, mu par l'abandon le plus pur, puisqu'elle s'est laissée faire. Voilà, alors donc ça c'est l'annonciation, j'y ai passé un peu de temps, mais ça nous renseigne un peu sur la manière dont Jésus va être aussi vécu. Lorsqu'elle a enfanté, ses entrailles furent remuées par le souffle de l'Éternel, et son état devint grandiose, les anges vinrent l'entourer, debout par rangée, avant qu'elle ne s'éloigne de nouveau, pour parfaire en adoratrice la mise au monde du Verbe venu de Dieu. C'est-à-dire au moment où elle a eu des douleurs, et après elle s'est isolée des anges pour mettre au monde Jésus. Voilà, ensuite la calomnie, je vous l'ai raconté à la faveur de la miniature, quand il lui dit, il l'appela au-dessous d'elle, donc Jésus l'appelle en nourrisson, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds, ça c'est le Coran, une source, et secoue le stipe du dattier, il fera tomber sur toi des dattes mûres et fraîchement cueillies, mange et bois, et rend à ton œil toute sa fraîcheur. » Voilà, donc il la console alors qu'il est un nourrisson, et c'est très beau là aussi dans le sens de l'interprétation, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, alors on peut être entendu comme une source, mais la source c'est le mot salwan en arabe, et salwan veut dire aussi gloire. Donc moi j'aime traduire par ton Seigneur a placé à tes pieds une gloire, qui est Jésus. Alors, on peut aussi l'entendre comme ça. Et donc la première parole de Jésus c'est celle-là, ne t'afflige pas, le Seigneur a placé à tes pieds, et puis quand elle a peur de la calomnie, elle dit, c'est le Coran, je suis en vérité le serviteur de Dieu, il m'a apporté le livre et il a fait de moi un prophète, il m'a béni où que je sois, il m'a ordonné d'accomplir la prière et de faire l'aumône tant que je serai vivant, et de montrer de la piété envers ma mère, il n'a pas fait de moi un tyran misérable, que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc la conception de Jésus est extrêmement charnelle. Alors est-ce pour contrebalancer la nature divine vue par le christianisme de Jésus? Peut-être, hein, peut-être. Mais c'est aussi dans les gènes de la culture arabe anti-islamique avant même la venue de l'islam, d'être dans cette dimension charnelle. La conception exceptionnelle, divin. Il est parole, Jésus est parole et esprit de Dieu. Il est kalam, ça veut dire kalima, c'est le verbe de Dieu, et il est rose, c'est l'esprit, c'est l'âme. Donc, Jésus est divin, en tant qu'il est parole et esprit de Dieu, esprit procédant de Dieu, il n'est pas l'esprit de Dieu, pas la même chose, hein. C'est un esprit procédant de Dieu, c'est pas un esprit de Dieu, il n'est pas Dieu, voilà, c'est ça que je veux dire. Il est spirituel par l'ange qui va transmettre le souffle divin, et il est physique par sa mère, qui va confirmer les paroles, le souffle et l'écriture. Jésus est fait donc d'argile et d'eau, comme Adam, hein, Adam dans la parole dans le Coran. Je cite le Coran, certes la ressemblance de Jésus chez Dieu est comme la ressemblance d'Adam. Il l'a créé de fines substances fertiles, il lui a dit viens, et alors il advient. Et donc, il lui a dit viens, et il lui a dit kun, sois. Hein, c'est un peu comme, Marie quand elle dit fiat, hein, que les choses soient faites. Donc, Dieu dit que les choses soient faites, et elles sont faites. Donc, je fais un miracle, et il est né d'une naissance miraculeuse, il est né sans père. Et c'est cette même fine substance fertile dans laquelle Dieu insuffle son souffle dans tout homme. Tous les hommes ont donc un souffle de vie en eux. Puisque Adam, je vous rappelle la création d'Adam dans le Coran, Dieu réunit les anges et il leur présente Adam et il leur dit « Je vous demande de vous prosterner devant l'homme que je viens de créer. » Voilà, et tous les anges se prosternent devant Adam, qui est fait d'argile, 100%, si on peut dire, mais c'est quand même Dieu qui l'a créé aussi, hein. Tous, sauf un, Satan. Satan qui lui dit quoi ? Tu l'as créé d'argile, moi je suis fait de feu. Je ne vais pas me prosterner, moi je suis fait de feu, je ne vais pas me prosterner devant un homme qui est en argile. Ça fait partie Alors, il a aussi ce nom de Massir, hein, de Massir, qui veut dire loin, qui veut dire la caresse, qui veut dire toucher, et qui correspond parfaitement à cette nature charnelle dont je vous parle dans le Coran et dans l'islam, qui évoque la peau, la chair. Et pour moi, alors là, je parle personnellement, Jésus est beaucoup plus... encharné que le prophète Mohammed ou que Abraham ou que Moïse qui sont plus mâles, qui sont plus abstraits, Jésus est vraiment une présence très très vivifiante, très voilà, il est formé, Jésus est formé de l'esprit d'Allah, min rohihi, si je parle en arabe, il est formé de l'esprit d'Allah, mais il n'est pas son esprit. Voilà. Nous l'avons assisté, nous l'avons mis au monde par l'Esprit de sainteté. Et je pense que le conflit, s'il y a conflit, puisque moi, pour moi, il n'y a pas conflit, je respecte tout à fait la religion chrétienne, et si c'est ainsi, je ne peux pas remettre en question, c'est une chose que je voulais vous dire au début peut-être, c'est qu'on ne peut pas remettre en question dans une religion un seul élément. Il y a toute une cohérence. Quand vous faites de la grammaire allemande ou de la grammaire arabe aussi, vous n'allez pas remettre en question en disant « Mais pourquoi vous mettez le verbe à la fin ? Pourquoi vous mettez le pronom ?» Alors, vous l'apprenez tel quel. Et moi, le christianisme, je le prends tel quel. Je ne vais pas remettre en question. Voilà, j'ai ma religion, vous avez la vôtre, mais la vôtre, c'est aussi un peu la mienne. Voilà, je m'autorise de ça... puisque Mohammed et Jésus sont son frère. Et peut-être la difficulté, et les grands saints de l'islam l'ont dit, c'est que peut-être que l'Église, après, a parlé du fils de Dieu. Et la notion de fils de Dieu fait appel à quelque chose de très charnel, de très anthropomorphique. Voyez. Or, Dieu en islam, c'est le Samad. Et je vais y revenir tout à l'heure. Voilà, je vais y revenir. C'est juste un petit caillou que je mets. Voilà. Le fils de Dieu, c'est une expression extrêmement presque violente pour les musulmans, parce que Dieu ne peut pas avoir de fils. Vous voyez, il a un souffle, il a un esprit de sainteté, il insuffle son souffle dans la matière humaine, mais il n'y a pas de fils. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans les évangiles, il me semble. Enfin, je l'ai vérifié, ce n'est pas clairement dans les... Alors, sur la Trinité, je disais à Marie-Christine que j'avais beaucoup travaillé, parce que tout ça, je le connaissais par la façon spirituelle, mais je n'avais jamais été regarder les textes, et c'est tout à fait passionnant. Et ce que je vous dis ici, c'est juste un tout petit peu de ce que toute cette science divine nous réserve. Ne dites pas trois. Voilà. Dans le Coran, Allah nous dit ne dites pas trois. Parce que trois, comme s'il y avait ne dites pas trois, qui fait référence à la Trinité. Jésus, fils de Marie, est un. Sa réalité complexe, complexe, c'est clair, je vous ai dit, elle est énigmatique, elle est mystérieuse, elle est complexe, c'est qu'il est dans les trois mondes, Jésus. C'est ça qui est beau. Il est dans le monde divin, il est dans le monde spirituel et il est dans le monde humain. Quand on le voit avec Marie-Madeleine, il est totalement humain. Quand on le voit ressusciter Lazare, il est quasiment divin, puisqu'il est quand même, il revivifie les morts, il ressuscite les morts. Donc, c'est une capacité divine. Et puis, il est spirituel par ses paroles magnifiques aussi. Donc, il est à la fois parole et esprit de Dieu. Il est esprit procédant de lui. Il est esprit incorporé par l'ange Gabriel. Et il est vrai homme par sa mère. Il est argile par sa mère. Et il est souffle par Gabriel. Ne retenir qu'un seul aspect revient pour les musulmans, revient à occulter l'autre aspect. Et cette occultation est considérée par le Coran comme un voile, une limitation, comme si on limitait cette capacité divine qui est indescriptible, infigurable, indicible. Voilà, donc c'est comme... Et le Coran nous dit « Abstenez-vous ». J'en ai parlé tout à l'heure. « Cela est mieux pour vous, dit le verset. Ce n'est pas trois dieux, mais c'est un seul dieu. C'est trois hypostases d'un même dieu unique. » Ce n'est pas trois dieux. Voilà, je vous ai parlé des paroles vaines. Donc ce n'est pas trois dieux, mais un seul dieu. Voilà, le dieu d'Abraham, j'y reviens, donc le dieu auquel l'islam fait toujours référence et qui fait partie de son dogme absolu, c'est le Dieu d'Abraham, c'est l'essence la plus pure, l'essence, qui ne peut se connaître, qui ne peut être limitée par l'homme, encore moins par l'homme. On ne sait pas. Il peut se limiter, mais on ne sait pas. Nous, on n'a pas le droit de dire qu'il est limité par la naissance d'un fils ou par ceci ou par cela. C'est l'essence pure, transcendante, lui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. Mais il a des attributs, ce Dieu. Hein, donc il est l'essence qui plane, qui est là, c'est le Dieu d'Abraham, mais il a des attributs, vous connaissez peut-être les 99 noms de Dieu, des attributs, hein, il a 99 noms et beaucoup plus. Mais, et ses attributs sont très nombreux, je vous ai dit, donc il est le beau, il est le clément, il est le bienfaiteur, il est le Rahman, donc il y a, sur les 99, il y a peut-être 70% de, même plus, de noms qui sont comme ça, très, très, très élogieux, très bons, voilà, à les dire, ils sont bons, vraiment bons. Et puis, il y a des noms qui sont durs, hein, et qui vont par pair. C'est-à-dire, par exemple, on a le clément et on a le contraignant. Ils viennent l'un à la suite de l'autre. Parce qu'il est capable de contraindre aussi. Il n'est pas juste une nuée bonne. Hein. Il est celui qui relève et il est celui qui abaisse. Hein. Le monde vit des guerres, le monde vit des choses, des tremblements de terre, le monde vit... Voilà. Et il est le premier et il est le dernier. Il est le qahir, c'est-à-dire il est le dominateur, mais il est aussi le muhaimin, le prévenant. Donc c'est par couple pour montrer que on ne peut pas le saisir. Il est et ceci et il est cela. Voilà. Et on ne peut pas dire juste qu'il est bon. Il est aussi dans sa capacité inimaginable de puissance. Et je mets en rapport, là, c'est du coup, pour c'est vraiment moi, c'est 99 noms avec la Trinité. Peut-être que le 3, c'est aussi une façon de dire ce développement du divin. Hein, c'est trois, les trois, l'Esprit Saint, le Dieu et l'Esprit Saint, Dieu et Jésus. Voilà, dans une essence absolument indifférenciée qu'il faut distinguer de sa fonction divine qui, elle, intervient à tous les niveaux, apparents et cachés. Le nom divin Ahad signifie l'un, absolu, ineffable, non explicable, non exprimable, non qualifiable, le mystère absolu dont on ne parle qu'en termes négatifs. Vous savez, la philosophie apophatique, il n'est pas ceci, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Quand on dit « La ilaha illallah », c'est « Il n'y a pas de Dieu, sinon Dieu ». Il n'a pas engendré, il n'est pas engendré. Mais on ne peut pas se permettre de dire qu'il est. Vous voyez ce que juste vous faire... Je veux rien convaincre, hein. Je veux juste que vous compreniez, c'est tout, hein. Vous êtes dans votre religion, je la respecte. C'est juste que vous compreniez un peu le fond de l'affaire. Et pas juste ce qu'on lit et ce qu'on entend et qui est parfois très difficile à entendre pour nous. Voilà, donc c'est presque quelque chose d'apophatique. On ne peut pas dire qui il est, mais on dit il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Et peut-être qu'il est, même. Peut-être que même dire il n'est pas, c'est peut-être... Mais dans le Coran, ça y est. Voilà. Jésus est aussi pour nous, pour beaucoup, il est un père. Alors, je crois que ça a été repris dans l'émission RCF, je crois, pour une seconde naissance. Rumi, que vous connaissez, qui est un très grand mystique du XIIIe siècle, vous savez, celui qui a fondé les derviches tourneurs, il dit « Chaque corps est pareil à Maryam. » Chaque corps est pareil à Maryam. Nous avons tous le corps de Maryam, homme ou femme. Et nous possédons tous en nous, tous et toutes, nous possédons un Rissa. Donc nous sommes capables aussi de mettre au monde un Rissa. À la condition que nous ayons mangé, que nous ayons lu, que nous ayons médité, que nous ayons prié les paroles du Seigneur, bien entendu. Hein, cette naissance de l'enfant spirituel se produit en chaque homme qui l'accueille de tout son être. Hein, on l'accueille quand on est en prière très fervente, on dit que tout soit, hein, fais ce que tu dois faire. Et la réponse par le fiat de Marie de l'Annonciation. Voilà. Et d'ailleurs, cette seconde naissance, je l'ai retrouvée dans les évangiles, quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc c'est une parole de Jésus. Là, pour le coup, on est complètement dans le même. Et d'ailleurs, cette seconde naissance, elle est propre à toutes les religions. Elle est propre à toutes les spiritualités. Vous renaissez. On parle de conversion, mais c'est en fait une renaissance en Dieu. Les miracles de Jésus, je vous les cite rapidement, des miracles de création, donc qui ne sont pas dans les évangiles. Évidemment, je vous parle de ceux qui ne sont pas dans les évangiles, sinon... Donc, il façonne avec... C'est dans le Coran. Il façonne avec de la glaise une forme... Un aspect extérieur, toujours dans le Coran, il y a l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Le dos, extérieur veut dire le dos, et l'intérieur veut dire le ventre. Il y a ici d'ailleurs tout verset du Coran a un aspect extérieur, donc l'apparence que vous lisez, comme ça, voilà. Et puis il a un aspect intérieur, caché, mystique, mais à vous d'aller le chercher. Avec la glaise, avec l'argile, il forme l'aspect extérieur d'un oiseau, et il souffle dessus, et lui donne la vie, mais toujours avec la permission de Dieu. Donc ça, c'est un des premiers miracles de Jésus. Il crée un oiseau. Il guérit l'aveugle né et le lépreux. Donc ça, on le retrouve dans l'évangile. Il revivifie les morts. On le retrouve ici dans l'évangile, mais il n'y a aucun exemple précis dans le Coran. Il n'y a pas de Lazare, il n'y a pas ça. Donc il vivifie les morts, mais la revivification des morts, c'est quoi? Si ce n'est notre propre revivification, c'est la revivification de la lettre qui nous est donnée, le Coran ou les évangiles, et que l'on revivifie par le souffle de notre lecture. Dans le Coran, si on psalmodie en islam, si on psalmodie beaucoup le Coran, c'est parce qu'on veut se réimprégner, se réhumidifier du souffle divin, puisque c'est la lettre divine. Donc on le manduque, quand on parle de manducation, c'est qu'on va donner encore de l'humidité à cette lettre, et on va lui donner vie, si vous voulez. Hein. Donc on revivifie cette tradition qui nous a été donnée, et que souvent, malheureusement, on assèche et on rend aride. Et puis, il y a l'autre miracle dont je vous ai parlé, c'est la table servie. Donc, s'il te plaît, Jésus, fais-nous descendre une table servie. On aimerait juste que tu nous fasses un petit miracle. On voudrait juste que... Il dit, mais vous ne croyez pas, vous ne croyez pas donc en moi. Il dit, non, mais on voudrait juste un signe. Enfin, je vous passe sur le... On veut des preuves. Les apôtres veulent des preuves. Hein. C'est la sourate 5, 112 et 114. Oh mon Dieu, fais descendre sur nous une table du ciel qui sera pour nous une fête, pour le premier et le dernier de nous. Nourris-nous. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Ça, c'est le Coran. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Donc ça, on peut l'entendre de mille façons, nourris-nous. Voilà, mais ça me rappelle aussi, moi ça m'a rappelé le peuple d'Israël, vous savez, dans l'Exode, quand ils sont dans l'Exode et ils reprochent à Aaron et Moïse, ils leur disent, mais il n'y a pas de légumes, il n'y a que des herbes sèches. Voilà, quand ils se sont mis à murmurer contre eux. Voilà, et cette sourate de la table servie est un véritable signe à elle seule, elle est mystérieuse, elle est implicite, elle contient l'histoire de la table dressée au désert, l'histoire de la nature singulière du Christ. Parce que souvent, la table servie est une allusion au miracle de la descente du Coran, qui est le pain de vie des hommes, dit croyez ou n'y croyez pas. Quand on le psalmodie devant eux, ils tombent sur la face prosternée. Ils disent, ô transcendance de notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur, la voilà réalisée. Donc le Coran est comme une table dressée, une manne miraculeuse, emplie de signes et de versets, destinée à ouvrir les yeux des hommes. Voilà, pourquoi de la nourriture? Parce que ça rappelle qu'ils sont humains. Voilà, on revient toujours à la conception de la conception de Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont humains. Et la nature de Jésus, elle inquiète. Elle inquiète au sens de elle rend étrange, elle rend curieux, sa chair se peint, puisqu'elle est du pain, elle interpelle les disciples. Il n'est pas anodin que ce soit une demande de nourriture qui soit faite à Jésus. Cette nourriture que tu manges, d'où vient-elle? Verset 75. Jésus n'est qu'un messager et sa mère n'était qu'un être de vérité et tous deux consommaient de la nourriture. Donc il y a toujours ce thème charnel qui revient. Et puis la nourriture, c'est aussi le besoin de l'homme d'avoir des choses nécessaires à la vie. Ce point sensible de l'homme d'avoir toujours quelque chose à manger, quelque chose, la pomme d'Adam, etc. etc. On revient à... Voilà. Et puis, peut-être enfin aussi, c'est que Jésus est dans la lignée de tous les prophètes qui sont cités par le Coran, parce qu'il y a 27 prophètes qui sont cités par le Coran. Donc, ils sont là, dans la lignée, et il s'inscrit dans cette lignée, puisqu'il le rencontre lors de son voyage au 7e ciel. Voilà. Jésus comme maître spirituel. Donc il est le maître de beaucoup de Ibn Arabi, qui est le plus grand Sheikh al-Aqba, ça veut dire le plus grand des maîtres en islam, mort à Damas en 1240, qui a laissé une œuvre inouïe. Hein, Son premier maître, ça a été Jésus. Le Coran dit, nous lui avons transmis l'évangile dans lequel sont guidance et lumière. Jésus. Donc dans les paroles de Jésus, pour moi, il y a guidance et lumière. Et dans l'adab qui veut dire la culture en arabe, qui met la culture au sens le plus noble du terme, la meilleure façon d'être musulman est de s'inspirer de ces grandes figures, de s'inspirer de Jésus, de Moïse, d'Abraham et de leurs gestes. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'évangile musulman, de ces citations de Jésus qui sont reprises. Par exemple, alors celle que vous connaissez peut-être sans doute, c'est Jésus qui voit un matin passer un porc devant lui, et le porc chez les musulmans c'est l'abomination, il voit passer un porc et Jésus le salue, on lui dit comment tu salues un porc, et Jésus leur répondit, il me déplaît d'habituer ma langue à dire du mal, il me déplaît à ma langue d'habituer ma langue Il me déplaît d'habituer ma langue à dire du mal. Donc je salue le porc. Une autre fois, on vit Jésus quitter la maison d'une prostituée. Mais ça, je crois que c'est dans les évangiles. Que fais-tu dans cette maison, lui dit-on. Il dit, c'est la visite du médecin malade. Voilà. Bon, d'autres aussi, mais je n'ai pas le temps. Voilà. Alors, il y a aussi, mais je ne vais pas passer trop de temps, je vais revenir à la résurrection, à la mort de Jésus. La mort de Jésus semble mystérieuse dans le Coran. Elle est vraiment mystérieuse. Vraiment, je me suis pris la tête. C'est vraiment... Donc, le verset coranique dit « Or, ils ne l'ont pas tué », je dis. Hein. « Ils », c'est les Juifs. Quand les Juifs disent « On l'a tué », ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas crucifié. Cela leur est seulement apparu ainsi. Ceux qui divergent à son sujet sont réellement dans le doute. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Il n'y a là que conjecture. Hein. Ce que je vous disais sur les paroles vaines et sur et blablabla, blablabla. Les rabbins, ils ne l'ont pas certainement tué, mais Dieu l'a élevé à lui. Donc, dans le Coran, Dieu a élevé Jésus vers lui. Tawaffa. Tawaffa, c'est faire mourir, c'est parachever, c'est parfaire la vie de quelqu'un. Quand on dit, comme ma mère m'a appelé en me disant ton grand-père Tawaffa, ça veut dire il a accompli sa vie. Voilà, il a accompli son cycle. C'est ça que ça veut dire. Dieu l'a élevé à lui. Donc il n'y a pas eu crucifixion, mais il y a eu rappel de Dieu à lui. Donc il est mort, il est élevé, hein, comme Marie dans l'Assomption. Merci. Comme Marie dans l'Assomption. Tiens, c'est dit nulle part, ceci. Et même Jésus dit à un moment dans le Coran 5, en 16, puis quand tu m'as rappelé auprès de toi. Tawafaitan, voilà, il réutilise toujours ce même mot de Tawafa. Tawafa. Voilà, Dieu dit, ô Jésus, vraiment, moi je te parachève et je t'élève à moi, je te débarrasse de ceux qui ont daigné, c'est dans le Coran, hein, et j'établis ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ont daigné jusqu'au jour de la résurrection, puis, toujours, hein, jusqu'à moi et votre lieu de votre réintégration. Je juge alors entre vous sur ce en quoi vous divergiez. Parce que dans le Coran, toujours, il est dit, vous divergez. Si j'avais voulu créer une communauté unique, je l'aurais fait. J'ai créé des communautés différentes pour que vous rivalisiez en bienfait entre vous. Et je vous informerai au moment de la résurrection sur qui a raison et pas a raison, et peut-être tout le monde a raison. Hein? Donc souvent, dans le Coran, il y a « vous ne savez rien » et juste vous raconter, et juste vous faites des conjectures. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, abstenez-vous. Voilà, moi, c'était une leçon morale pour moi. Le terme « parachève » signifie le fait de recevoir quelque chose, mener à terme, parachever, recueillir le défunt, mourir, c'est la réception d'une âme au moment de la mort. Voilà. Dieu recueille les âmes au moment de leur mort. Allahu yatawaffa. Yatawaffa ar-ruh in al-maut. Voilà, c'est le verset qui dit, 39-42, Dieu recueille les âmes, donc il a recueilli son âme. Voilà, donc il ne pouvait pas être crucifié, puisque cela leur est apparu ainsi. Et donc il n'y a pas du tout la dimension sacrificielle, la dimension rédemption, la dimension de sauveur. Le Coran n'a pas retenu cette réalité-là, cette réalité chrétienne-là. Voilà, puisque Dieu, au sens charnel, hein, ne peut donc être crucifié. Une partie de Dieu, puisqu'on a dit que Jésus était divin, spirituel et physique, une partie ne pouvait être crucifiée en raison de sa nature exceptionnelle. Sa conception, ses miracles, sa mort, son être tout entier et sa parole, c'est un mystère qui plane. C'est un mystère qui plane dans le Coran. Puisque « Shubiha lahu », cela leur est apparu ainsi. Comment vous interprétez ça? Cela leur est apparu ainsi, c'est tout. Donc je ne peux pas en dire plus. Voilà. Et ensuite, je vais vous libérer. Je vais vous libérer. L'eschatologie, je passe, parce que l'eschatologie, l'histoire du minaret, etc., ça n'est pas dans le Coran. La résurrection est finale. Jésus, on dit qu'il, dans le Coran, on dit qu'il est le maître de l'heure. Voilà, que c'est lui qui sait quand il y aura la grande résurrection, mais c'est tout. Et c'est ensuite les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète, dont on sait que pour beaucoup ont été fabriquées pour donner une belle image dans une vision apologétique de l'islam, qui ont beaucoup développé cet aspect-là. Voilà, et c'est tout, et c'est tout, et peut-être pour conclure, le Coran ne reprend pas donc exactement les écritures évangéliques, vous l'avez vu, ce qui n'aurait aucun sens, hein, ce qui n'aurait pas de sens puisque ce serait de la pure répétition, puisque c'est 6 siècles avant, hein, puisque l'islam 6 siècles avant, c'est dans le désert, c'est dans un milieu polythéiste, donc alors que la naissance, alors que la vie de Jésus c'est dans un milieu juif, hein, dans un milieu dont il n'y a pas de contexte, donc on ne peut pas comparer. Mais c'est plutôt qu'il déploie sous d'autres lumières la même vérité. C'est ça que je voudrais, si vous voulez retenir quelque chose, ce sont d'autres lumières, enfin, l'arabe des lumières, ce sont d'autres lumières, mais c'est la même vérité spirituelle qui, depuis l'aube des temps, continue d'irradier ses rayons, de résonner de prophète en prophète, de révélation en révélation. Et je citerai même continue d'irradier ses rayons, de résonner de prophète en prophète, de révélation en révélation. Le Coran donne une ampleur inédite au miracle de l'Annonciation, en convoquant la beauté comme intercesseur du désir divin, comme intercesseur. C'est-à-dire, si je veux m'approcher de Dieu, alors je fais une très très belle calligraphie. Alors je psalmodie le Coran de façon merveilleuse. Alors je fais une miniature. Vous voyez, c'est parce que la beauté va le toucher. Je vais me rapprocher de lui. Et il donne une gravité profonde à la mort de Jésus, non pas par une crucifixion de souffrance et de douleur et de sacrifice, mais par son enlèvement par Dieu au ciel, lui le plus grand témoin de Dieu par le cœur. Ça c'est dans le Coran. Le plus grand témoin de Dieu par le cœur. Et pour Halaj, qui est aussi un très grand mystique mort en Irak en 922, donc le 10e siècle, Jésus est la réalisation la plus parfaite pour un homme. Jésus est la réalisation la plus parfaite pour un homme de l'union mystique entre l'humanité et son Dieu. Entre l'humanité et son Dieu. Et je vous remercie, et pardonnez-moi si j'ai été un peu longue.